Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as raté ?
Pense au podcast.
Oui !
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la rentrée et j'espère que vous êtes très heureux de nous retrouver parce que nous on est très heureux de vous retrouver pour les chroniques des bibliothécaires. Aujourd'hui, on va vous présenter quatre petites choses intéressantes. D'abord, Vincent va nous présenter une BD, ensuite Marjorie, un roman policier historique, Géraldine, un album jeunesse et moi je finirai sur un film. Eh bien c'est parti, Vincent.
Vous connaissez cette musique ? Alors oui, je vous entendais déjà dire « facile, Vincent ». C'est un extrait de « Dans l'antre du roi de la montagne », tiré de la musique de scène composée par Edvard Grieg en 1874 pour la pièce de théâtre « Peer Gynt ». Alors oui, d'accord, mais en bon cinéphile, je vous réponds « pas seulement ». Car j'ai reconnu le célèbre leitmotiv sifflé par le tueur dans le film « M. le maudit », sorti en 1931 et réalisé par Fritz Lang. C'est à cet illustre metteur en scène que consacre Arnaud Delalande au scénario et Éric Liberge au dessin, une superbe bande dessinée parue cette année aux éditions Les Arènes. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Fritz Lang, c'est le réalisateur de presque 50 films entre le début des années 20 et la fin des années 50, avec une carrière jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont contribué à faire du cinéma un art à part entière. Cette BD retrace la première moitié de sa vie. Véritable héros de la Première Guerre mondiale, il mettra par la suite autant d'ardeur dans l'art et la création que sur les champs de bataille dont il reviendra blessé à l'épaule et à l'œil droit. Ses premiers pas dans le monde du cinéma, Lang les fait, comme bien souvent, à la faveur de découvertes fortuites, comme le visionnage du Fantômas de Louis Feuillade, qui lui révélera les potentialités expressives du médium cinématographique, lui qui se destinait au départ à la peinture. On suit, avec un sens élégant de la mise en page et de la narration, les différents films de sa période allemande, de ses débuts en tant que scénariste, en passant par les tournages du Docteur Mabuse ou encore de Metropolis, qui feront de lui une star nationale. Approché par Hitler en 1933 par l'intermédiaire du ministre de la Propagande Joseph Goebbels, Fritz Lang se voit contraint de s'exiler aux États-Unis, où il passera le reste de sa vie et mènera une seconde carrière cinématographique, hollywoodienne cette fois. La BD ne vise pas l'exhaustivité biographique, elle raconte surtout la naissance d'un cinéaste et offre une lumière intéressante sur le contexte historique dans lequel ses premiers films ont été tournés. Ce contexte, c'est celui de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, une Allemagne en crise, blessée dans son estime et qui ne se remet pas de la défaite de 14-18. C'est durant cette période que des metteurs en scène introduiront les premiers éléments expressionnistes dans leurs films, influençant par la suite tout un pan du cinéma mondial, du film fantastique au film noir. Lang fera alors partie de cette mouvance, qui use du symbolisme pour traduire une vision angoissée et pessimiste de son époque. Le livre parvient très bien à saisir ce climat, cette tension qui existait au sein de la société entre ceux qui voyaient en Hitler le leader charismatique tant attendu et ceux qui très vite, à l'instar de Lang, ont mesuré le danger qu'il représentait. Enfin, Éric Liberge conjugue admirablement finesse du trait à des couleurs aux tonalités métalliques pour dresser un portrait tout en nuances du cinéaste, dont certains éléments biographiques demeurent obscurs. On pense notamment à sa relation adultère avec Théa von Arbou, romancière et scénariste qui deviendra sa femme après la mort mystérieuse et non élucidée de sa première épouse et actrice de théâtre Elisabeth Rosenthal. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse retrouver cette BD à la médiathèque Césaire où vous trouverez au passage une autre BD parue cette année, également signée de Lalande, après la rafle, témoignage de Joseph Weissmann, un des derniers rescapés de la rafle du Veldiv. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Coralie qui va vous présenter un roman historique.
Marjorie.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman policier historique qui se déroule pendant les guerres de religion. Ce roman s'intitule « La cité de l'arme » de Kate Moss. Alors, pour connaître l'orthographe de Kate Moss, romancière anglaise, il suffit d'ajouter un « e » au nom du mannequin Kate Moss. La cité de l'arme est donc la suite de la cité de feu. Dans ces deux romans, on voit évoluer deux personnages principaux, Minou et Piet, dans la tourmente des guerres de religion. Dans le premier tome, on suivait leur rencontre. Dans le deuxième tome, ils sont maintenant mariés et ont deux enfants. Ils sont installés dans le Languedoc La Cité de l'Arme se situe en 1572, soit 10 ans après le début des guerres de religion. En 1572, Catherine de Médicis va marier sa fille Marguerite. La future reine Margot à Henri de Navarre, le futur Henri IV. Ce mariage est censé apaiser les tensions entre les catholiques et les protestants. Minou et Piette sont invités à célébrer cette union. Ils décident donc de se rendre à Paris avec leurs 2 enfants, Martha et Jean-Jacques. Ils voyagent avec leur nourrice et la tante de Minou, Salvadora. Une partie de la famille de Minou est catholique, sa tante notamment. Minou s'est converti au protestantisme car son mari est protestant, originaire d'Amsterdam. Minou et Piette forment un couple très ouvert sur la question de la religion, contrairement au contexte historique de cette époque. L'histoire va les rattraper car on cherche à attenter à la vie de Minou parce qu'elle s'est convertie. Voilà, je vous rassure, on est bien dans un roman policier. Un assassin est chargé de la tuer, mais il va se tromper de cible. Il va blesser mortellement la sœur de Minou. Malgré cet événement malheureux, ils partent tout de même à Paris. Et là, peu après la célébration du mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre, Martha disparaît. Elle a échappé à la surveillance de sa nourrice. Martha a 7 ans, elle est éveillée, turbulente et très curieuse, elle pensait pouvoir découvrir seule Paris. Mais elle se retrouve perdue. Et surtout, elle est prise au piège d'un événement déclencheur qui va conduire au massacre de la Saint-Barthélemy. En effet, le 24 août 1572, l'amiral de Coligny, un fervent catholique, est assassiné. Kate Moss est très forte pour créer des histoires pleines de rebondissements et riches en émotions. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment de lecture. Personnages forts, secrets, trahison, mystère, enquête, amour et amitié s'entremêlent dans cette grande fresque historique. Un dernier indice pour terminer cette chronique. Si vous aimez Ken Follett, vous aimerez Kate Moss. Voilà, maintenant je passe la parole à Géraldine. C'est à toi Géraldine.
Je te remercie Marjorie. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est ce que le génial graphiste Joël Guénoun veut nous montrer dans ce bel album, dont il est aussi l'auteur des textes. Un bel album à la couverture d'un rose éclatant et au titre intrigant, le Wawazo. Nous sommes en littérature jeunesse, bien sûr. L'album commence à la manière d'un conte. La petite Emma se perd dans la forêt enneigée. Elle se réfugie dans la cabane d'un vieil homme, un peu ronchon, qui bouscule ses certitudes. Ça l'agace un peu, Emma. Le vieil homme l'invite à bien regarder les choses. Et pour l'y aider, il glisse entre ses mains l'ouvrage que nous, lecteurs ou lectrices, allons découvrir avec elle. C'est un drôle de livre qui exerce notre regard à voir vraiment. Ici, un oiseau, là, un sermin, un loufoque, une amstruche ou une tomate étoile. Comment ça, vous ne comprenez rien? Dans l'image du oiseau, on voit à la fois un chien, wawa, et un oiseau. Dans celle de l'amstruche, on voit simultanément une autruche et un hamster. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Le tout est réalisé avec finesse, intelligence, élégance, tendresse. C'est d'une inventivité et d'une beauté incroyables. Bon, je vous l'accorde. Pour que vous vous en rendiez compte, il va bien falloir que vous alliez y jeter un œil. Mais si vous le faites, moi je le sais, ce n'est pas qu'une seule page que vous regarderez. Mais vous vous mettrez à tourner toutes les pages en prenant le temps de les décrypter. J'ai testé pour vous, auprès d'enfants et auprès d'adultes, c'est imparable et assez jubilatoire. La découverte du nom que Joël Guénoun donne à chacune de ses créations fait se dessiner sur nos lèvres de lecteurs et de lectrices un sourire, ainsi que le texte poétique qui l'accompagne. Allez, un exemple, je vous propose d'en savoir un peu plus sur le cucreuil. Alors, vous avez deviné ? Bah oui, sur l'illustration, on retrouve un écureuil et un coq bien emmêlés. Le cucreuil vit dans un arbre, appelé poulreuiller. Le cucreuil est fainéant et polygame. C'est un animal très agaçant, dont la principale occupation consiste à réveiller tout le monde très tôt le matin avec son très reconnaissable et retentissant cucuricu. Aussitôt levées, les femelles, appelées les poulereuils, sautent de branche en branche pour chercher la nourriture qu'elles ont soigneusement cachée la veille et qu'elles ne retrouvent jamais. La poulereuil pond de délicieux petits œufs roux appelés noisettes. Les noisettes éclosent après avoir été couvées pendant 21 jours. Le 22e jour, le cucreuil casse la coque, particulièrement solide des œufs, avec son bec. Le bec du cucreuil est jaune et très dur et il est appelé casse-noisette. C'est ainsi qu'apparaissent de petits pousseuils très mignons et tout rouges. Voilà un petit exemple. Vous avez ici un livre beau et intelligent qui allie qualité des images, graphiques et ludiques, à des textes qui sont ciselés, à la fois poétiques et bien entendu pleins de fantaisie. Ce livre offre plusieurs niveaux de lecture, de compréhension, pour un plaisir assuré à chacune et à chacun, quel que soit son âge. Et quand vous serez tombé sous le charme de Joël Guénoun et de ses créations, je vous invite à aller voir quelques-uns de ses « mots du mardi matin » sur la page méta du même nom, qui paraissent donc tous les mardis matins depuis maintenant plus de 13 ans. Son regard aiguisé et ses talents de graphiste y font fureur. Le Wawazo, et aussi le Mouchat, le Pianours, la Flire, etc., de Joël Guénoun est à retrouver dans les bacs de la médiathèque Vaillant. Merci pour votre attention. Antonin, c'est à toi.
Eh bien, rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Aujourd'hui, enfilez votre tutu et préparez vos pointes et vos shuffles de hip-hop. Je vais vous parler danse, mais pas que, avec le dernier film encore de Cédric Clapiche, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver à la médiathèque Césaire. Tout d'abord, on ne peut pas parler d'un film de Clapiche sans parler de l'œuvre générale de Clapiche, tellement elle compte dans le cinéma français aujourd'hui. En effet, la plupart de ses films s'inscrivent dans un cadre temporel précis, encadrant des tranches de vie qui explicitent à leur façon une vie de tous les jours, selon des générations et des époques choisies par le réalisateur. Son cinéma est toujours ancré dans la vie réelle et avec la plupart du temps une finesse qui fait son succès en nous transportant doucement, tranquillement, là où il veut nous emmener. Avec Le Péril Jeune, nous vivions l'aventure d'un groupe d'amis de 18 ans dans les années 70. La trilogie de l'Auberge espagnole nous plongeait dans les affres amoureuses d'un groupe de vingtenaires, puis trentenaires, puis quarantenaires depuis les années 2000. Ou bien ce qui nous lie nous parlait d'une fratrie de vignerons. Cet ancrage dans la vie et la qualité de ses films constituent justement ce qui est intéressant chez lui. On ne peut pas être fondamentalement déçu en en regardant un. Si certains films par rapport à d'autres peuvent nous avoir plus ou moins marqués, on est sûr de toujours trouver assez de justesse pour passer un très bon moment. Sur ce, parlons d'Encore, Encore, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Si en 2008, avec le film Paris, le réalisateur colorait son scénario d'une thématique autour de la danse, aujourd'hui, ce nouveau film lui est consacré. En effet, nous suivons Élise, une danseuse étoile qui, suite à une blessure, voit sa carrière s'arrêter abruptement et potentiellement pour le reste de ses jours. Elle va alors se laisser porter par les événements, les rencontres, la vie, quoi, pour trouver comment et par quel ressort elle va rebondir. Bing ! Comme tous ces autres films, si le scénario n'est pas révolutionnaire, le parcours de cette jeune fille est assez naturel et bien brossé pour que le spectateur soit happé dès les premières minutes. L'histoire slalom entre la gestion de sa blessure, l'immersion dans le milieu de la danse, classique d'abord, puis contemporaine ensuite, les interrelations entre tout ce beau monde, etc., etc. Et dans ce sens, si vous aimez la danse, vous serez servi. Bien qu'il ne remplace pas un beau spectacle de danse, le réalisateur s'est retroussé les manches pour vous faire vivre l'émotion de la danse à travers la passion de tous ces danseurs que nous suivons tout le long du film. Enfin, comme souvent dans les films de Clapiche, on trouve une poignée de personnages secondaires adroitement castés qui arrondissent le film, ajoutent de la légèreté par rapport aux situations potentiellement dramatiques de l'intrigue principale, ajoutent aussi un rythme à l'ensemble. Ça fonctionne toujours, et particulièrement ici, avec Pio Marmaille et Souleya Yacoub, en couple de confidents, un petit peu déjantés, un petit peu foufou. Bon, même si on s'ennuie jamais avec Clapiche, il n'arrive pas à parfaitement éviter quelques écueils. Ici, une scène ou deux, avec deux danseuses qui comparent la danse classique avec la danse contemporaine d'une façon si banale et assez peu subtile qu'on croirait qu'elle parle à la caméra. Ou là, des scènes de bonne ambiance de danseurs pour qui la vie a l'air bien facile, un cliché assez lourd vu le travail inhérent à la carrière de danseur. Somme toute, le plaisir de visionnage est là. Et je vous promets 2 heures tout à fait agréables. Donc n'hésitez pas à sauter sur cette belle petite histoire et à vous de découvrir le destin d'Élise. Sur ce, je vous passe pour conclure la bande-annonce du film. «
crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
Si tu construis ta vie sur ton corps à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins deux vies.
Sabrina m'a proposé un job avec son mec.
Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher.
On est une compagnie de danse contemporaine.
Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que...
Quand ils bougent, tu veux dire quand
avec les...
Le corps. Quand ils bougent avec le
les
corps.
Bras,
quand ils bougent avec le corps. Le mouvement.
Oui, oui.
Quand ils dansent, quoi.
Attention, hein. J'aime bien attention un peu.
Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est cucu.
Ah, qu'est-ce que tu connais, toi?
Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie.
Et voilà. Eh ben, je conclue à tout ça. Donc, on va se retrouver le mois prochain pour encore plein de jolies petites choses à découvrir. Sur ce, bonne journée à tous. Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Wouhou !